du vent dans les pages.
Pourquoi j'écris ? Enfin, je dis quelquefois parce qu'on m'a dit d'écrire.
Nous vivons quand même un temps où la chose écrite compte de moins en moins, à cause probablement du brouhaha général.
Simplement, l'écriture sèche, nue, comme ça. Terrible.
Qu'est-ce à dire ? Si ce n'est que partout où la colonisation s'est manifestée, des peuples entiers ont été vidés de leur culture, vidés de toute culture.
Bah, finalement, il ne tient pas tellement la bouteille, cet écrivain américain.
Un anti-parlementaire.
Voilà, un muet, c'est un anti-parlementaire.
Un muet, c'est un anti-parlementaire.
Mais un athée.
Un athée, c'est un anti-moine.
Voilà, un croyant.
Donc un croyant, c'est un antiseptique.
Voilà. Et les Arabes du Caire
sont antisémites.
Et les sémites
sont anti-caire.
Voilà.
Je crois que ma vocation est nulle et qu'au fond, j'obéis aux autres, mais pas à moi-même.
Du vent dans les pages, c'est maintenant sur Studio Zef. Soyez les bienvenus. Vous retrouverez, comme chaque mois, nos goûteurs de livres et d'essais, Alice et Alex, la séquence invitée en compagnie d'Anne et de Lolita, qui nous parleront de leur passion pour l'écriture, et une petite poésie venue tout droit d'Amérique du Sud terminera notre opus livresque et radiophonique. Alors débranchez-vous, détendez-vous, quelques causeries tout de suite dans Du vent dans les pages.
Page volante. Aventure et mésaventures littéraires.
Par Alex Dauzier.
Jérôme K. Jérôme, trois hommes dans un bateau. Jérôme K. Jérôme aurait dû rester à jamais un écrivain inconnu, or il se vend chaque année des centaines de milliers d'exemplaires d'un des plus grands best-sellers de l'histoire, Trois hommes dans un bateau, auquel il faut ajouter son sous-titre, sans parler du chien. De quoi s'agit-il ? L'auteur raconte le voyage en canot de trois jeunes hommes accompagnés de leur chien sur une portion de la Tamise entre Kingston et Oxford. Difficile d'écrire un best-seller avec une telle intrigue. Ce qui est plus incroyable, c'est que Jérôme K. Jérôme faillit ne pas l'écrire du tout. Orphelin très jeune, Jérôme avait dû faire un grand nombre de petits métiers afin de survivre. Il n'avait pourtant jamais abandonné son goût pour l'écriture. Il avait fini par trouver un emploi d'instituteur qui lui laissait un peu plus de temps pour écrire et s'essayait dans différents genres. Il commence à obtenir de petits succès et propose à son éditeur Arrowsmith d'écrire un petit livre sur les bords de la Tamise. Choix étrange, mais pas si curieux. En effet, quelques années auparavant, l'État avait fermé la haute Tamise à la navigation fluviale et cette portion était devenue le royaume des amoureux du canotage et des dimanches au bord de la rivière. Écrire un petit ouvrage décrivant les berges, les paysages, les villages traversés, les pubs et les auberges trouverait certainement son public et assurerait ainsi un succès plus important à son auteur. L'éditeur était d'accord et l'auteur entreprend l'écriture de son ouvrage. Quelques semaines plus tard, Jérôme revient avec son manuscrit et le fait lire à son éditeur. Celui-ci ne lui cache pas que l'ouvrage est certes bien écrit, mais qu'il est particulièrement ennuyeux. Il lui conseille donc de pimenter le texte par le récit d'anecdotes qui rendraient l'ouvrage plus attrayant. Jérôme repart et rajoute les anecdotes souhaitées en imaginant ses trois personnages, qui sont en fait ses trois amis, et la présence du chien Mortimer. Le principe est qu'à chaque étape, l'un d'eux raconte une histoire dont il se souvient. Jérôme rapporte une seconde fois son manuscrit à Arrowsmith, qui ne peut s'empêcher d'éclater de rire à chaque histoire. Il lui propose de réduire au maximum les descriptions et de ne garder que les anecdotes. Un succès est né. Le livre paraîtra en 1889. C'est un succès populaire immédiat. On estimera à 1 million le nombre d'exemplaires pirates circulant dans le monde à cette époque. Arrowsmith, devant la demande croissante des libraires, déclarera que les lecteurs devaient certainement manger les livres. À quoi est dû ce succès ? Jérôme K. Jérôme était un être assez pessimiste et triste, ayant une vision fataliste de l'homme et du monde. En développant un style paradoxal, toujours très sérieux mais aux limites de l'absurde, il décrit dans un style simple et direct, d'une redoutable efficacité, les avatars de l'existence en les considérant comme réalistes, ce qui est une force comique assurée. Il peut ainsi décrire les incohérences du genre humain et de la société sous l'angle du comique de la situation. Lui-même, héritier des grands auteurs du nonsense anglais qui avaient pour but de décrire avec des outils logiques l'absurde comme étant la réalité, il a inspiré de nombreux auteurs du XXe siècle par son style direct et le fait de s'adresser directement au lecteur. Si vous n'avez que le temps de lire un seul chapitre de Troisième dans un bateau, il faut lire celui où l'oncle Podger accroche un tableau. C'est l'un des plus grands moments d'histoire comique jamais écrit. Jérôme K. Jérôme, Trois hommes dans un bateau, impossible de ne pas le trouver en librairie, peut-être est-il déjà présent dans le grenier de votre grand-mère.
Du vent dans les pages. Sur Studio Zef. Vous êtes bien sur Studio Zef. Du vent dans les pages continue avec le plateau des invités. Nous sommes accueillis aujourd'hui au café Fluxus, niché au sein du Conservatoire de musique de Blois. Derrière le mur des mots, puisque les mots, justement, il en est question dans cette 7e émission. Effectivement, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'écriture, plus précisément de poser la question si l'acte d'écrire est un plaisir ou une nécessité. Qu'est-ce qu'écrire provoque comme sentiment subjectif ou comme satisfaction très concrète d'avoir écrit ce que l'on avait à dire, si tant est qu'on y arrive. Il y aurait une sorte de méthodologie utilisée par la plupart des écrivains qui serait d'aller de l'imaginaire à l'élaboration, de la construction à l'écriture, du remaniement à la production finale. Alors que l'on s'engage dans l'aventure romanesque historique ou dans l'intimité d'âme voyageuse comme nous allons l'entendre avec nos deux invités, l'écrivain, comme disait Sartre, qu'il le veuille ou non, est celui ou celle qui donne les noms d'amour et de haine à des rapports indéfinissables entre les hommes. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Je suis en compagnie de Lolita, que les auditeurs de Studio Zef connaissent bien. Et puis de Anne, qui est déjà venue dans mon émission du Vent dans les pages.
C'est exact.
Hein, voilà, présentée. On avait fait une émission autour du théâtre.
Tout à fait, au XVIIIe siècle.
Au XVIIIe siècle, oui, exactement. Et bien pour la peine, on va commencer par vous.
D'accord. Voilà. Voilà.
Donc, on est pas mal installés ici. Hein.
Oui, c'est très agréable.
On est dans les mots. C'est la première fois que vous venez, que vous m'avez dit.
Oui,
hein.
Ouais, bah,
voyez.
C'est honteux hein, pour une blésoise de ne pas être venue.
Non, mais vous avez traversé la Loire.
Tout droit, hein, voilà.
Non,
non,
c'est entre vents et marées.
Exactement.
Ça change du liberté, voilà.
Voilà, tout à fait. Bon.
Je vous ai invité toutes les deux parce que ce qui me paraissait vraiment intéressant, c'est que Lolita, pour ta part, tu écris plutôt des choses assez intimes.
Oui, c'est ça, on pourrait même dire un peu autobiographique.
Voilà, tout à fait. Et puis j'ai lu des choses moi, que j'ai vraiment beaucoup aimées, je tiens à le dire, très sensibles. Voilà, j'étais même très émue, pour tout te dire. Et Anne, j'ai lu votre dernier roman, essai biographique.
C'est une biographie. C'est une biographie, voilà. On peut dire.
Qui m'a passionnée, je dois dire.
Un peu romancée, parce qu'il faut toujours donner un petit peu d'étoffe au personnage.
Ouais, ouais.
Étant donné que le personnage lui-même est oublié.
Oui.
Donc,
ouais. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous en parler de ce roman? D'abord, dire le titre, qui est le personnage principal sur lequel. Voilà,
d'accord. Autour alors, vous avez le titre, écrit. C'est François Lai dit Laïs. L'histoire d'un Gascon à l'Opéra de Paris, c'est un baryton qui a vécu la fin de la monarchie, la Révolution et puis la Restauration et qui est mort en 1831, voilà. Après 43 ans. Comme baryton à l'Opéra de Paris.
Et alors, je rebondis tout de suite justement sur le personnage de votre livre, hein, puisque c'est vrai qu'en discutant sur le sujet d'aujourd'hui, vous m'avez dit que vous aviez, dans l'acte d'écrire, vous avez envie de raconter des histoires.
Tout à fait.
Mais oui. sur des personnages oubliés. Alors,
voilà.
Effectivement, le 18e siècle, c'est votre période favorite, si
tout
je puis dire.
Tout à fait, oui.
Mais les personnages oubliés, c'est très important pour vous, ceux dont on ne parle jamais.
Voilà, on parle toujours d'un certain nombre de personnages, Madame de Pompadour, les rois, les ministres. Mais en fait, autour de ces gens-là, il existe pléthore de personnages qui vivent dans l'ombre ou qui ont eu une action particulière ou qui sont très connus dans leur province et pas du tout pour le reste du pays. Alors moi, j'ai commencé comme ça parce que je suis pyrénéenne d'origine. Et donc, j'ai fait comme tout le monde. J'ai commencé par ma famille. Et puis, je me suis aperçue que ça intéressait beaucoup de monde.
Alors,
donc,
quand vous dites que vous avez commencé, ça veut dire que vous avez commencé à écrire.
À écrire, hein,
voilà.
J'ai commencé à écrire, raconter des histoires. J'ai fait ça avec mes enfants. Ça leur plaisait beaucoup. J'ai commencé vraiment à faire des recherches sérieuses, approfondies. En cherchant sur un de mes ancêtres qui a eu plusieurs actions, qui a commencé comme simple berger et terminé comme général et baron d'Empire. Et je me suis aperçue d'abord que j'y prenais un plaisir extrême, autant pour la recherche, même plus pour la recherche d'ailleurs que pour l'écriture, parce que faire des recherches, c'est créer ses chapitres dans sa tête.
Oui.
Avant même de les écrire, et tirer des fils, les toiles d'araignée, déshabiller un personnage, c'est finalement déjà écrire tout ce qui se passe autour du personnage. Donc je dirais que un livre me prend environ 18 mois, 2 ans de recherche et 3 mois d'écriture, parce que c'est déjà dans ma tête, le chapitre en lui-même est déjà écrit. Construit.
Vous avez déjà la trame
tout à fait, de
votre livre en entier, du début jusqu'à la fin.
Exactement. Sauf que, au fur et à mesure des recherches et du résultat des recherches, j'écris un chapitre. Bon, mais ce n'est pas forcément le chapitre par lequel je vais commencer. Ce chapitre, par exemple, j'ai écrit un livre sur un patricien vénitien. J'ai commencé par un bal à Venise. Un bal très important, puisque l'empereur Joseph II y était invité.
Vous avez commencé vos recherches ?
Non,
non
j'ai commencé à écrire, en partant justement de ce bal. Et puis, une fois que j'ai eu écrit le chapitre, je me suis aperçue qu'il n'était pas fait pour être au début du livre. Donc, je l'ai mis de côté et puis j'ai attaqué la réalité du personnage lui-même.
C'est très personnel, la manière dont les gens écrivent. Enfin, justement, la méthode que les gens utilisent pour arriver finalement à la production finale.
Oui.
Est-ce que vous êtes d'accord sur justement ce que je disais tout à l'heure, sur ça commence dans la tête, après il y a une phase d'élaboration. Après, c'est la construction de l'objet, je dirais, de l'écriture. Et après, il y a l'écriture. Est-ce que à la fin, vous relisez ce que vous...
Oh là là, oui.
Oui, voilà. Alors, plusieurs fois. Voilà, alors, c'est ce que j'ai cru comprendre.
La première chose, c'est d'implanter le personnage dans une époque, dans son époque. Ensuite, une fois qu'on a réussi à lui donner une réalité et qu'on a commencé à écrire le chapitre, vient l'écriture elle-même, c'est-à-dire utiliser tel adjectif et pas tel autre, ne pas avoir de répétition, développer une façon de penser du personnage. Et au bout du compte, le chapitre en lui-même n'a rien à voir avec le chapitre initial.
Ouais. Hein, comment vous procédez ? Comment est-ce que vous faites des fiches ? Est-ce que vous écrivez le personnage ? Comment, par exemple, il est habillé ? Est-ce que vous imaginez le décor ? Est-ce que, comment ça se passe dans votre... Enfin, voilà, dans votre imaginaire, avant de le coucher sur le papier.
Alors, pour le personnage lui-même, j'essaye de le camper.
Ouais.
En général, une fois qu'il est campé, je le laisse de côté. Et puis, je vais chercher tout ce qui concerne l'époque. Et à ce moment-là, c'est vraiment une recherche de petite souris, parce que je me base très peu, finalement, sur les historiens actuels. Je vais chercher les mémoires du temps.
Donc et dans les archives.
Dans les archives. Avant d'aller dans les archives, d'ailleurs, je vais sur Internet. Je suis une grande utilisatrice d'Internet, Gallica en particulier, ouais. Et aussi Europeana, puisqu'il y a énormément de mémoire sur Europeana. Une fois que j'ai trouvé quelque chose qui concerne ce personnage en question, je pars à la chasse d'autres mémoires qui vont en parler et qui vont parler de cet événement. Pour donner un exemple concret, j'ai découvert dans un livre de l'époque que François Lai avait été franc-maçon. Alors, ce n'était pas une découverte, puisque tous les acteurs de l'époque étaient francs-maçons. Mais je n'ai trouvé nulle part une autre série de mémoires m'indiquant justement qu'il était franc-maçon. Donc, je ne dis nulle part dans mon livre qu'il était franc-maçon. Et puis, il n'y a pas très longtemps... j'étais chez Emmaüs, au milieu de livres de la collection Harlequin, je tombe sur un livre qui s'appelait « La franc-maçonnerie chez les musiciens au XVIIIe siècle ». On peut difficilement faire mieux.
Merveilleux.
Donc j'ai sauté dessus, je rentre à la maison, je commence à me plonger dedans. Au bout de 10 pages, je tombe sur une liste de la loge des neuf sœurs, avec François Lai indiqué dedans.
Voilà, ça fait partie des belles rencontres.
Exactement, que mon livre était déjà édité en librairie, donc nulle part il est indiqué qu'il était...
Mince.
Et il l'était. Voilà.
Non, parce que j'aimerais bien, si vous avez la possibilité de lire un petit passage,
camper mon personnage.
Voilà.
C'est le premier chapitre que j'ai écrit pour le mettre en place.
Vous avez utilisé le terme « la couleur du temps » pour retrouver des faits, en parlant de la mémoire. Et je trouvais ça vraiment joli, parce que c'est vrai qu'en lisant votre...
Oui, parce que en fait, vous avez lu mon livre, donc vous voyez ce que je veux dire.
Oui, tout à fait.
J'ai essayé de faire des chapitres correspondants à l'époque, pour donner au lecteur, pour que le lecteur rentre dans l'histoire. Alors là, je peux vous lire un passage. Nous sommes le 13 juillet 1789. Ça fait déjà 2 bons mois qu'il y a de la révolte dans l'air. Et donc, j'ai essayé de faire passer justement cette partie-là. Les faubourgs étaient agités. Un vent de fronde courait les ateliers où le mécontentement se faisait entendre de plus en plus nettement. Des rumeurs folles poussaient les ouvriers dans la rue, formant des groupes échauffés par les violents discours de meneurs qui, montés sur une borne ou une carriole renversée, appelaient à l'émeute à chaque coin de rue. Les fabricants de produits manufacturés fermaient les uns après les autres, la hausse du coût de la vie empêchant les familles d'acheter autre chose que des produits de première nécessité. C'était autant d'ouvriers au chômage qui accroissaient le nombre de mécontents. Tous les éléments étaient en place pour une brutale explosion. On est vraiment juste... avant la prise de la Bastille.
Oui.
Voilà, vous rentrez dans dans l'époque.
Justement, le XVIIIe siècle, quand vous parliez du début de votre envie d'écrire,
oui.
Est-ce que ça a été tout de suite, je dirais, assez immédiat par rapport à l'époque.
Oui, parce que j'ai écrit sur mon ancêtre qui, lui, vivait à la même époque que François Lalle.
Voilà. Et donc, vous avez accès, donc, votre passion.
La première fois, je suis rentrée dans cette période-là. Alors, il faut dire aussi que j'ai fait des études d'histoire et mon mémoire de maîtrise était sur la guerre des farines, c'est-à-dire 1760, 1770. Et donc, déjà, cette période-là me passionnait. C'était vraiment le moment où je me sentais le mieux dans l'eau, finalement. Et j'ai toujours aimé lire des mémoires de personnes qui ont vécu à cette époque-là. Donc, j'ai engrangé un certain nombre de connaissances depuis un certain temps.
Bien sûr. Hein?
Comment je pourrais dire Les personnages que je choisis sont des personnages qui ont vécu à cette époque. Parce que le XVIIIe siècle, ça n'est pas seulement des bergères et des moutons avec des rubans, c'est un tonneau d'huile en fusion. Depuis Voltaire, c'est Voltaire qui a tout déclenché. Plus exactement, c'est Voltaire et Diderot qui ont dit tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Ouais. Mais depuis 1750... à peu près, il y a de la contestation en permanence. Que ce soit les sociétés, la franc-maçonnerie, que ce soit les comités fleuraux, que ce soit les réunions chez les aristocrates en ville, que ce soit... Il y a toujours de la contestation. Et en fait, le commentaire le plus évident, c'est le fait que le roi Louis XV ait été le bien-aimé au début, le mal-aimé à la fin, et que tout le monde l'ait dit à haute et intelligible voix à ce moment-là.
C'est vrai que ça plante un décor, ça favorise aussi l'écriture dans ce sens où ça peut alimenter effectivement l'imaginaire, l'imagination.
Exactement.
Et puis
nous sommes dans une période, alors pas trop tellement, quoique quand on y pense, ce siècle-là, c'est la monarchie de Louis XIV, la régence, ensuite Louis XV, mais Louis XV tout petit, donc c'est un ministre qui dirige la France. Ensuite, nous avons Louis XV plus âgé, ensuite nous avons Louis XVI, et puis après il y a Robespierre, et puis après il y a Barras, et puis après il y a Napoléon consul.
Oui, mais vous, ce n'est pas les personnages connus qui vous intéressent.
Oui, mais ce sont chacun... plante une partie du décor et autour de ces parties-là vivent les gens qui m'intéressent.
Oui, voilà. Non, vous en parlez très bien.
J'essaye. C'est assez passionnel chez
moi. Oui, mais ça se sent. Mais c'est ça qui est très intéressant parce que c'est vrai qu'à vous entendre et à vous lire, on sent que vous maîtrisez très bien votre sujet, que moi, je ne suis absolument pas férue d'histoire et finalement, vous pourriez me raconter n'importe quoi.
C'est intéressant. Que je le crois.
Non, je plaisante. Mais non, je plaisante. Mais non, j'ai appris beaucoup de choses, vraiment. Parce que vous dites, mais j'écris pas de romans. Mais si, finalement, quand on lit François Laïs, c'est un roman aussi.
Roman historique. Attendez, on est bien obligé de partir de quelque chose. Voilà. Hein. François
Laïs.
Dit Laïs. François Laille, pour moi, c'était une maison. Il se trouve que je connais très bien son lieu de naissance, qui est la Barthe de Neste, qui est un tout petit village à côté de Lannemezan. Il a une magnifique maison au bord d'une petite rivière qui s'appelle la Torte. Et puis ça s'arrête là. Je n'avais rien d'autre. Et finalement, c'est en discutant avec la documentaliste du village qui m'a dit c'est un baryton de l'Opéra de Paris. Et c'est à partir de là que je suis partie aux archives à Paris pour essayer de... Parce que les archives de l'Opéra sont aux archives nationales maintenant. Et j'ai eu la stupéfaction d'avoir devant moi un dossier qui faisait 12 cm d'épaisseur. Alors j'ai vraiment dépioté, parce qu'il se trouve que ce personnage a un autre intérêt. Il vivrait maintenant, ce serait un syndicaliste convaincu. C'est celui qu'on appelait à l'époque le mouton noir, et qui n'arrêtait pas de protester sur la façon dont les chanteurs étaient gérés par la direction, les menus plaisirs, etc. et qui défendait ses camarades, qui eux-mêmes étaient beaucoup trop timides et introvertis pour oser aller au casse-pipe. Et c'était lui qui y allait à chaque fois. Et ça marchait à chaque fois. D'ailleurs, j'ai le moment vraiment où j'ai eu le choc de ma vie, c'est, enfin, il ne faut pas exagérer, mais presque, en compulsant ce dossier, je suis tombée sur un moment très particulier dans la vie de François Lai, qui est 1799. L'opéra n'a pas un radis. On paye les artistes en leur donnant des actions de la société L'Opéra. Le seul qui refuse, c'est François Lai, qui a une famille à nourrir, qui n'a pas d'argent derrière lui, et qui refuse, qui veut de l'argent, quelque chose de bien sonnant et trébuchant. L'humeur monte entre la direction et lui, jusqu'au moment où il envoie une lettre en disant « puisque c'est ça, j'arrête de chanter, je ne serai pas ce soir sur la scène ». Ah là là, branle-bas de combat, si Lai ce n'est pas sur la scène, c'est une catastrophe. À l'époque, c'est l'idole, c'est le Pavarotti du XVIIIe siècle, Lai. Et donc, l'information remonte. Le directeur, enfin, le sous-directeur en parle au directeur. Le directeur appelle le ministre, envoie un message, explique la situation. Le ministre, absolument scandalisé qu'un vulgaire histrion mène tout le monde par le bout du nez, décide d'en référer à Bonaparte, qui est à l'époque premier consul. Et Bonaparte réfléchit, et voilà ce que ça donne. Accorder aux citoyens laïcs 100 francs de gratification à chaque représentation, en argent, discrètement, que ses camarades ne soient pas au courant. Son traitement est ainsi porté de 20 000 à 26 000 francs annuels, ce que demandait Lai, signé Bonaparte. Et moi, j'ai trouvé ce petit papier, daté du 5 novembre 1802, accroché à la lettre qu'envoyait Lai, qui était dans le dossier. Un tout petit papier, une toute petite écriture, toute fine, etc. Ça m'a sidéré. Ah ouais. Et j'ai pas pu photocopier parce que dossier est tellement fragile. Que déjà, ils ont mis 2 mois à me permettre de le compulser.
Oui, c'est long.
C'est très long. C'est très, très long. Et donc, voilà, j'ai eu le choc. C'est quand même
là aussi,
étonnant.
C'est une belle rencontre.
Oh là là, c'est une rencontre merveilleuse, magnifique. Donc, voilà.
Donc, c'est une aventure de bout en bout, hein, cette histoire d'écriture de livres.
Ah, tout à fait.
Voilà. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez terminé? Vous avez tout de suite envie d'écrire autre chose ou, est-ce que l'écriture, c'est quelque
c'est
chose
une montée
qui ne vous...
d'adrénaline.
Ouais, mais ça ne vous quitte pas? Ou vous passez des périodes où vous n'écrivez rien du tout
C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Il faut faire des recherches, trouver un sujet intéressant. Ouais. François Lai, c'est mon 4e livre. Avant, il y a eu un officier. Donc, on est dans la partie guerrière de l'Empire. Ensuite, il y a eu un mousquetaire du roi qui n'était pas bien, qui voulait absolument défendre son roi et défendre la monarchie, et tout en étant quelqu'un de très intelligent, qui avait un diplôme en droit, qui était avocat, et qui était une créature de Choiseul, qui a été l'espion du roi pendant toute sa vie. C'est un Pyrénéen, c'est un Pyrénéen de la Vallée d'Or, etc. Bon, et puis j'ai écrit aussi... c'est d'ailleurs un personnage externe, espion du roi, donc il y a une partie qui se passe à Madrid, et à Madrid il rencontre Casanova. Donc je suis partie à un moment sur Casanova parce qu'il y avait des renseignements que je trouvais dans la vie de Casanova et les mémoires de ma vie. Et cette partie-là m'a envoyée à Venise. Il se trouve que Venise, c'est vraiment un amour pour moi. Je suis partie au musée Correr faire des recherches. Et finalement, ça m'a donné envie d'écrire sur un patricien vénitien. Vous voyez,
le cheminement. Oui.
Le cheminement, ça peut être assez étonnant comme système, mais enfin bon, j'ai laissé tomber Casanova parce que j'avais sorti tout ce qu'il, toute la, les choses intéressantes qu'il pouvait dire sur mon sujet. Et puis ensuite, je suis partie sur ce patricien vénitien dans la foulée. Et c'était aussi la même période, puisqu'il est ambassadeur de Venise en France, l'année où Madame de Pompadour est présentée, enfin, Madame de Normandie-Étienne, puisqu'elle ne sera marquise de Pompadour qu'ensuite, est présentée à Louis XV.
Avant de passer la parole à Lolita, juste, voilà, ouais, vas-y Lolita.
Oui, je voulais vous poser une question en vous écoutant. Finalement, vos personnages, on a l'impression vraiment qu'ils vous habitent à un moment donné, que ces personnages qui sont historiques, qui ont vécu, qui ont une vie réelle, à un moment donné, vous occupent au point que, à quel point d'ailleurs, vous vivez avec eux et vous imaginez aussi tout ce que l'histoire ne dit pas, c'est-à-dire peut-être voilà, leur vie quotidienne, leurs sentiments, leurs déceptions, leurs amours, leur détresse. À quel point ces personnages deviennent vivants pour vous ?
Alors c'est vrai que je vis avec mes personnages, oui. Je me réveille même la nuit quand je suis en période d'écriture. Il m'arrive de me mettre sur l'ordinateur et de m'en apercevoir à 3h du matin parce que je suis encore dedans. Mais en même temps, il faut raison garder. Il y a le personnage qui me passionne, à qui je fais dire des choses qui me semblent normales au moment X où je suis en train de parler d'eux. Mais je respecte toujours les données que j'ai. Les fiches que j'ai faites, les recherches que j'ai pu faire... C'est ce qui me permet, et surtout, je raccroche la vie de mon... Enfin, le personnage dans le livre, je le raccroche à la réalité. Par exemple, je vais vous donner un dernier exemple. J'ai entendu parler d'une visite qu'avait fait Bonaparte, Napoléon plus exactement, en 1811, dans les Hautes-Pyrénées, pour voir comment se présentaient les stations thermales. Il a été horrifié et il s'est installé à Tarbes et en 3 jours, il a fait un règlement des stations thermales. Et quand il est arrivé à la préfecture de Tarbes, il est tombé dans un salon, dans le salon de musique, il est tombé sur un portrait de Laïs. Et ça, j'en avais entendu parler chez moi. Et on m'avait dit, à Tarbes, il y avait un portrait de Laïs qui était à la préfecture. Et qui a disparu. Alors, il a disparu pour essayer de retrouver le tableau en question. Ce n'était pas facile. Mais j'ai retrouvé les mémoires de Menval. Et Menval dit, j'ai accompagné l'empereur à Tarbes. Et il est tombé en arrêt devant un tableau de Laïs. Donc, il existe, ce tableau. Alors, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais la préfecture a flambé sous Napoléon III, donc je pense qu'il a flambé avec.
Oui.
Exit. le beau tableau de Laïs que j'aurais aimé avoir. Mais il en existe un, celui qui est sur la couverture du livre, qui a été fait à la demande du député des Hautes-Pyrénées pour la section de Bigorre sous Napoléon III, et qui représente François Laille. Alors, je vous le montre, parce que...
Ah oui, mais à la radio, c'est...
Voilà, non, mais je le montre à la petite jeune femme qui est à côté de moi. Alors, il représente Laïs en train de chanter Anacréon. Et c'est un personnage de l'Antiquité. Alors, sur le portrait, il a la même coiffure que Napoléon à la même époque, hein, 1811, les cheveux bouclés, collés avec la mèche, etc. Et il porte une toge et une guirlande de roses. C'est d'un ridicule achevé. Et en même temps, il a une belle tête. Il a des beaux yeux bleus. Il est... Voilà.
Ah, vous l'aimez, hein, votre François.
Ah, tout à fait. Tout à fait. Je trouve que c'est un personnage. Alors, pourquoi dit Laïs ? Eh bien, tout simplement parce que Laï, c'est la prononciation en pays d'oc. Son petit-neveu s'appelle Francis Lay. Et Francis Lay, ça a été un chanteur au XXe siècle.
Tout à fait, oui.
C'est la prononciation en pays d'Oyle, c'est-à-dire oui. Au nord de la Loire. Donc quand il est arrivé et qu'on s'est fichu de lui parce qu'il était gros, pas très mignon à voir, oh là là, il s'appelle François Lay. Ça n'a pas raté, au parterre, il y a eu des lazis qui sont partis. Et donc il a décidé de mettre un tréma et ajouter un S.
Oui.
Et voilà, c'est devenu Laïs, on ne peut pas faire autrement que de prononcer correctement.
Voilà. Merci beaucoup.
C'est un plaisir. Je suis désolée de ne d'avoir été aussi bavarde. Non,
mais pas du tout, c'est un plaisir. On rappelle juste, si vous voulez bien rappeler, donc Anne Kéruel, François Lay.
François Lay, dit Laïs.
Lay, je vais voilà. Pas y arriver. Hein.
La vie tourmentée d'un Gascon à l'Opéra de voilà. Paris.
Aux éditions
C'est aux éditions La Louve.
La Louve.
Voilà.
D'accord. C'est une édition pyrénéenne.
C'est de Cahors. Et vous voyez, c'est une biographie.
Oui, c'est marqué. C'est marqué dessus.
C'est pas moi qui l'ai dit.
Voilà. Merci, Anne.
Je vous laisse le micro avec plaisir.
Du vent dans les pages. Sur Studio Zef. Alors, on va passer dans un autre univers.
Oui, c'est... Ouais, j'ai même un peu honte parce que
Pas du tout. Ça,
c'est... C'est vrai que moi, j'ai une pratique d'écriture qui est extrêmement tournée vers ma propre vie. Et c'est très intéressant, en fait, de voir l'écart et en même temps le plaisir, je crois, partagé avec lequel les mots s'ajoutent pour raconter des histoires, que ce soit des histoires biographiques ou des histoires comme les miennes qui sont un peu plus autobiographiques.
Mais tu m'as envoyé quelques lignes que j'ai lues avec beaucoup d'émotion, je te disais tout à l'heure. C'est vrai que c'est très intime. Ça m'a fait penser, quand on dit la formule consacrée, quoi, c'est les états d'âme, mais au sens pur du terme, quoi, je dirais au sens vraiment profond. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que là, c'était en l'occurrence un carnet de voyage en Grèce. Tu vas nous en parler, si tu veux bien, un peu plus. Pourquoi tu as décidé déjà de faire... Parce que ce n'est pas un carnet de voyage classique. C'est vrai que tu as rajouté des photos. C'est de toi, les photos. Magnifique photo, d'ailleurs. Donc, photo, texte. Donc, il y a cette espèce de double concept. Poésie, ça nous emmène, quoi. Mais ça ne nous emmène pas seulement en Grèce. Ça nous emmène à la rencontre de personnages. Ça nous dit quelque chose de toi et de cette sensibilité qui t'anime. Et même dans les émissions que tu animes, on sent ça. Moi, j'ai bien reconnu ton timbre de voix, ta passion pour les gens. Donc j'aimerais bien que tu nous en parles de ça.
Oui, alors c'est vrai que je t'ai envoyé donc en quelque sorte le produit le plus fini de mon écriture, puisque donc ça fait une trentaine d'années que j'ai la chance de voir ce monde. Et c'est vrai que le journal que je t'ai envoyé, ça s'appelle L'été grec, c'est un journal que j'ai édité, donc c'est vraiment un grand format, hein, c'est un vrai journal en quelque sorte. Et c'est un journal qui raconte le voyage que j'ai fait en Grèce, un voyage solitaire que j'ai fait en Grèce il y a à peu près pour l'été de mes 30 ans. En gros. Et effectivement, j'ai une pratique de l'écriture qui est au départ complètement privée. C'est vrai que je n'écris pas pour me faire lire. Et c'est un peu la première fois, ce journal de Grèce, que c'est la première fois que j'ai donné à lire cette chose. Donc déjà, il a fallu la mettre en forme, effectivement, puisque d'habitude, j'écris beaucoup sous forme de carnets, qui sont mes propres carnets, et qu'effectivement, je suis la seule à lire. Et là, il a fallu le mettre en forme, donc réfléchir à l'ordre des choses, à la façon de... Alors après, j'aime beaucoup aussi la mise en page. Je pense que ça fait aussi vraiment partie du processus d'écriture. Donc la taille de la police, la façon de mettre à la ligne, la façon de mettre effectivement en regard certaines photographies de mon voyage. Et puis de fabriquer une histoire, alors qui est un petit peu singulière, puisqu'effectivement, j'essaye de mêler des choses qui sont très personnelles, que j'ai ressenties ou que j'ai vues, et puis des choses que j'ai tout simplement entendues avec les personnages que j'ai croisés dans mon voyage. Et l'écriture me permet de raconter tout ça en même temps. Et c'est un journal que j'ai fait pour mon père. Et donc, ça a été mon premier lecteur et tu as été mon deuxième lecteur. Voilà.
Mais j'en suis très honorée. Et je voulais te demander, avant de partir en Grèce, tu as organisé en quelque sorte ce travail-là pour le faire sur place, ou c'était très spontané? Parce que ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'en lisant, j'ai eu la sensation que c'était là aussi très maîtrisé et en même temps très spontané. C'est assez troublant, parce que quand on lit un livre, on est emmené, quand on lit ton journal, par exemple, on est emmené de manière un peu déroutante. Voilà, ça déroute un peu, parce que c'est pas dans nos... tu comprends? Enfin, moi, je suis pas non plus dans des cases, quoi, mais...
C'est pas très organisé, quand même.
Mais en même temps, il y a quand même quelque chose, il y a un fil conducteur, il y a un récit, quand même.
Bah en fait, j'ai pas du tout réfléchi à l'image d'ailleurs du journal. En fait, je me trimballe toujours avec des carnets. J'ai toujours un ou deux carnets. Alors, j'ai des carnets qui sont des carnets qui ont pour titre des dates. C'est-à-dire, c'est le début, en fait, le début du carnet. Donc, ça s'appelle juillet 2015. Ça s'appelle, C'est vraiment des carnets qui vont m'accompagner tous les jours et dans lesquels je vais glisser à la fois des choses que je pense, des choses que je vois et des choses que j'entends. Donc, je glane des choses, j'écris des choses. Et puis, c'est vrai que dans le processus d'écriture, j'ai besoin, en quelque sorte, que les mots soient justes quand je les écris. Donc la prise de notes, elle est rarement complètement brute. Il y a déjà un travail, entre guillemets, complètement spontané, hein, mais il y a un travail des mots, parce que j'aime bien que les mots... soit jolie, enfin, me semble jolie, me semble juste. Rien que quand j'écris un texto, j'aime que le son des mots résonne et que, bon, à part si c'est vraiment un texto très quotidien, mais même, enfin, j'aime bien qu'il y ait quelque chose qui se dise avec les mots. Donc en fait, ces carnets-là vont m'accompagner. Alors là, c'est vrai que pour la Grèce, j'avais pris un peu plus de carnets que d'habitude parce que je partais un mois et demi et voilà, dans mon sac à dos, j'avais pas grand-chose, mais j'ai quand même mis 3-4 carnets différents. D'ailleurs, j'aime bien qu'ils soient différents physiquement, ça me stimule quand j'en ouvre un nouveau. Et ensuite, en fait, j'ai fait que noter ce que je... En fait, ce qu'il y a dans le journal, c'est... D'ailleurs, j'ai mes carnets sous la main, ce sont exactement les mêmes phrases. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de travail de réécriture pour le journal. Donc, en fait, c'est une façon d'écrire vraiment de manière spontanée, quotidienne, mais tout en travaillant la langue, enfin, tout en travaillant ce que ça raconte.
Alors, qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que à la fin de ton voyage, tu avais terminé tes carnets, tu avais rempli tes carnets.
C'est ça.
Et tu n'as pas retravaillé dessus ?
Très peu. À part les textes qui parlent de personnages que j'ai rencontrés.
Oui.
Parce qu'en fait, quand j'ai rencontré, donc pendant un voyage en solitaire, ce qui est bien, c'est qu'on rencontre beaucoup de gens. Et quand les gens m'ont parlé, je prenais juste des notes de ce qu'ils m'avaient dit, mais pas pendant qu'on parlait, puisque ce sont des discussions de tous les jours. Du coup, c'est après coup, quand je les quittais, que je notais dans mes carnets des souvenirs de ce qu'ils m'avaient dit. Et c'est notamment le portrait de Nicole. Le premier portrait est construit comme ça. J'ai vraiment, dans le train, c'était une rencontre à la gare de Lyon. J'ai croisé cette dame qui était un peu perdue, qui allait à Nice et qui cherchait son train. Et comme elle devait attendre, et moi aussi, une dame d'une soixantaine d'années, on s'est assises toutes les deux à une terrasse de café et on a discuté pendant 2 heures. Elle m'a offert un café. Et ensuite, quand je suis montée dans mon propre train, donc qui allait à Milan, j'ai noté dans mes carnets ce qu'elle m'avait dit, donc des espèces de bribes de souvenirs qui m'avaient marqué, parce que évidemment 2 heures, c'est beaucoup plus long que ça si on devait le retranscrire. Et ça, par contre, il y a eu un travail de réécriture pour essayer de raconter son histoire, ses propres mots, mais en les remettant en forme pour que ce soit ce que moi j'en avais ressenti de son histoire. En fait, le journal de Grèce, je l'ai réalisé un an et demi après mon voyage, puisque je l'ai réalisé cet hiver. Donc la mise en forme, en fait, est beaucoup plus tardive. Et effectivement, j'ai pas retravaillé mes carnets, mes écritures, si ce n'est la mise en forme, bien sûr.
Oui, ça vaut peut-être mieux dans la mesure où ce qui déclenche votre écriture, c'est une couleur, une sensation, un choc littéraire. Et donc, c'est la phrase qui correspond justement à ce choc, cette sensation, cette couleur. Il ne faut pas la retravailler, sinon c'est un livre.
Mais effectivement, tu es une grande amoureuse de la langue et ça se sent, quoi. Enfin, voilà, c'est pas du Marc Lévy, tu vois. Enfin,
mais c'est...
Pardon.
C'est vrai que quand tu m'as demandé de venir sur cette émission, au début, je me disais, bon, bah, j'ai pas une pratique de l'écriture en tant que telle pour laquelle je me sentais d'en parler. Mais en fait, en réfléchissant pour venir, je me suis dit que c'est vrai que depuis que je suis petite, je remplis ces carnets et c'est vraiment ma manière d'apprivoiser le monde. Je crois que c'est une façon de ranger presque le regard que j'ai sur le monde. En fait, c'est comme si les mots, à un moment donné, quand ils se mettent en forme, d'un coup, le monde, c'est ce que je disais, d'un coup, le monde devient juste, j'arrive à le lire, à le comprendre. Et en fait, cette pratique de la langue, je pense, vient avant tout d'une... C'est pour ça que je dis que c'est très intime, vient avant tout presque d'un outil pour comprendre le monde avec bienveillance, trouver ma place au milieu de ce monde. Voilà, c'est pas facile de grandir parfois. Donc voilà, ça a été ma manière de faire, d'apprivoiser. C'est un peu la ritournelle de Guattari, par exemple, qui raconte que voilà, un enfant a besoin de se chanter une ritournelle pour apprivoiser le monde. Moi, je crois que mes ritournelles, ça a toujours été ces écritures qui se sont peut-être avec le temps un petit peu affirmées dans leur style. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je pense que ça reste assez spontané. Enfin, je crois que c'est juste un geste de vie quotidienne.
Tu as gardé tous tes écrits ?
Oui, je crois la plupart. Ouais, j'ai des tas de cahiers, de carnets. Mais après, c'est vrai que c'est des formes. Chez moi, ma bibliothèque, il y a quasiment autant de livres que de carnets. Ouais.
Tu peux dire que tu écris tous les jours ? Chaque jour, c'est un besoin. C'est,
ouais.
Là, pour le coup, une nécessité.
Oui, c'est pour ça la question, est-ce qu'écrire c'est un plaisir ou une nécessité ? Moi, je crois que c'est vraiment au croisement des deux pour moi. Je pense que la nécessité, elle est dans ce que je disais, cette espèce de mise en lumière du monde dont j'ai besoin pour avancer, pour continuer à aller parler aux gens, pour continuer à essayer de comprendre comment chacun vit, comment chacun lui-même comprend le monde. J'ai besoin d'écrire pour comprendre les autres. Et puis du coup, je crois que j'ai besoin d'écrire pour ranger, tout simplement, presque tous les jours, pour ranger. Alors non, il va y avoir des journées très actives où je vais faire autre chose qu'écrire, mais c'est vrai que j'ai toujours mon carnet, c'est très important, mon carnet, mon stylo, parce que voilà, une petite chose va avoir besoin d'être couchée sur le papier. C'est vrai que j'ai certains carnets qui sont un peu thématiques, comme le carnet de Grèce par exemple, qui va ne parler que de ça, mais j'ai certains carnets où c'est juste une miscellanée de choses et d'autres, et c'est presque dans ce collage aussi un peu étrange que j'aime bien me replonger. parce que, comme je le disais, je crois que je suis la seule lectrice de mes carnets, à part si mes parents ont voulu regarder dedans que c'était quand j'étais plus jeune, mais je crois... Bah, alors après, c'est la grande question de les rendre publics ou non. Moi, je sais que quand... Alors, c'est justement... Donc là, je commence à avoir... Donc j'ai 30 ans passé, j'ai eu un grand moment comme ça, ce sont vraiment mes écrits à moi, et puis il y a eu plus différentes phases qui m'ont amené à les éditer. Alors notamment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tous mes carnets, petit à petit, à force de les relire, je me suis rendu compte qu'il y en avait quand même certains, enfin il y en avait même beaucoup qui parlaient d'amour, et en fait beaucoup de choses que j'écris à mes amoureux ou aux gens dont j'aimerais être amoureuse ou dont j'aimerais qu'ils soient amoureux de moi, et donc j'en ai fait des carnets. Alors pour le coup, enfin j'en ai fait des livres, je les appelle des livres, pour le coup ils sont complètement intimes, hein, c'est quelque chose que j'ai jamais fait lire, mais qui compile en quelque sorte à la fois des choses que j'ai écrites, des lettres, des choses que j'avais mis dans mes carnets, des lettres bien évidemment que je leur ai jamais envoyées, des échanges de textos, des mails, des échanges par exemple sur Facebook, les échanges qu'on peut garder ou sur différents moyens de communication comme ça. J'ai compilé tout ça et puis ensuite j'ai choisi au milieu de tout ça de quoi raconter une histoire, puis ça fait un livre, donc actuellement j'en ai trois qui sont à peu près terminés. Et puis ça a été, je crois, mon premier acte de dire bon bah peut-être que ça raconte une histoire, peut-être que ça pourrait être lu. Bon, je ne les ai jamais fait lire. Et ensuite il y a eu ce journal de Grèce que j'ai essayé de rendre à la fois intime mais aussi un peu public, c'est-à-dire que j'arrive, tu vois, j'ai réussi à te l'envoyer, j'arrive à te le faire lire, je l'ai fait lire à une troisième personne récemment.
Le journal de Grèce, c'est le premier journal que tu écris en voyage ou
J'avais juste des carnets en fait, j'avais jamais carnets, travaillé hein. Une D'accord. édition particulière D'accord. de ce travail-là. Donc là, la forme okay. journal, c'était vraiment destiné à mon père qui distribuait des journaux en fait toute sa vie et à qui j'avais envie de faire un cadeau, et donc c'est le cadeau que je lui ai fait, et la Grèce, sachant que c'est son pays, donc c'était aussi sur ses traces que j'allais, donc ça c'était vraiment un cadeau, ce journal, mais bon, j'arrive à le faire lire, donc je suis contente que ça t'ait plu. Et puis là, plus récemment, par exemple, je travaille à une revue qui s'appelle La Moindre des Choses, puisque c'est le titre de l'émission de radio, effectivement, que j'anime, mais c'est aussi parce que cette attention aux petites choses me semble vraiment faire partie de mon quotidien. Et du coup, là, c'est avec d'autres personnes où, voilà, on rassemble des photos, des échanges de textos, des petits textes, etc. Et donc, le premier numéro va bientôt sortir et ça s'appelle La Moindre des Choses, où là, peut-être que je suis un peu plus dans la donner à lire cette intimité, mais c'est vrai que c'est pas facile de sortir d'une écriture intime à une écriture qu'on donne à lire, c'est vrai que...
Mais l'intimité peut se donner à lire, l'un n'empêche pas l'autre. J'avais envie de te demander qu'est-ce qui te freine pour l'instant à franchir ce pont effectivement d'éditer. Est-ce que c'est le regard sur qu'on pourrait porter, non pas sur ton travail, mais sur toi-même?
En fait, c'est vrai qu'en réfléchissant, je me dis que en fait, j'écris pour ne pas dire. C'est très souvent le cas. D'ailleurs, il y a un des carnets qui s'appelle « Tout dire ou ne rien dire ». En fait, j'écris pour ne pas dire. La plupart des choses que j'écris, ce sont celles que je devrais certainement dire et que je ne dis pas aux gens en question. Et donc, c'est vrai que d'un coup, de le faire lire, alors à cette personne ou à une autre, quelle qu'elle soit, en fait, c'est d'un coup mettre en lumière des choses que en fait, j'ai certainement écrites pour les garder cachées. Donc, je pense que c'est avant tout cette raison-là. Et puis après, c'est vrai que quand je fais lire les choses que j'écris, c'est pas que je choisis les personnes à qui je les fais lire pour le moment, mais quand même, enfin, c'est vraiment des gens en qui j'ai confiance. Il y a une sorte de confiance. J'ai besoin de connaître un peu la personne. Tout simplement parce que voilà, je crois que on dit pas tout exactement comme on dit pas tout à tout le monde. Et j'ai pas vraiment peur du regard que les gens peuvent porter sur moi parce que ce que je raconte, c'est la vie, c'est la vie de tout le monde, mais c'est juste, voilà, comment les gens ont pas forcément besoin ou envie non plus de tout savoir. Enfin voilà, il y a peut-être cette distance-là qui se met en place, où j'essaie juste de voir si... On dit souvent qu'on a un espace intime, environ un mètre autour de nous. Dès que quelqu'un le franchit, il y a une intimité qui se met en place. Ben, c'est exactement ça. J'essaie de cerner chez la personne si on peut ou pas franchir un peu cet espace par mes écrits ou pas. Et puis, parfois oui, parfois non.
Mais c'est vrai que ce qui est intéressant avec vous deux, c'est qu'on passe pas tellement... c'est pas tellement une question d'univers. C'est une question de démarche, mais presque de démarche intellectuelle. Finalement, parce que c'est une transmission, là pour vous Anne c'est une transmission d'un savoir, mais pour toi Lolita c'est aussi la transmission d'un lien. d'un lien personnel, d'un lien social. Et je pense que ce qui est intéressant dans l'écriture, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ça, quoi. C'est que ça parle de l'humain, de vous, les personnages oubliés, dont on ne parle jamais. Toi, Lolita, ça parle de toi, mais pas seulement, puisque tu vas à la rencontre des gens. Et tu parles d'eux. Et tu parles d'eux comme quand tu parles de toi, quoi. Enfin, mmh. avec la même intensité et la même honnêteté. Mmh. Donc, je crois qu'il y a quelque chose là qui est tout à fait cohérent, quoi.
Ouais, ouais. Et il y a aussi peut-être cette notion dans l'écriture de la trace. Enfin, moi, j'ai une petite tendance à tout garder. Je me suis beaucoup battue avec mes parents pour ça quand j'étais plus jeune. Je garde vraiment tout, le moindre papier. Quand vous parliez des archives tout à l'heure, c'est vrai que c'est tellement passionnant de se dire que d'autres aussi ont tout gardé. Et en fait, le principe d'écrire, de coucher sur le papier des pensées, la plupart du temps, elles sont perdues. On n'y pensera plus, on ne les relira même plus. Moi, mes carnets, je ne les relis pas à tous. Mais juste le fait de les avoir écrits, on se dit, c'est bon, ça c'est gardé, c'est de côté. Et en fait, parce que moi je trouve que la vie, elle est tellement, tellement passionnante, il y a tellement de choses à voir, à faire, que j'arrive pas à me souvenir de tout, j'arrive pas à me souvenir des sentiments que j'ai réellement éprouvés. Et je crois que l'écriture me permet de tout noter de manière un peu.
En même temps, ça vous donne l'impression que vous vivez. Oui, la vie, c'est quelque chose qui flotte. C'est un nuage. Et de l'écrire vous donne l'impression qu'à un moment X, vous existez vraiment. Ce n'est pas forcé d'ailleurs de le faire lire à qui que ce soit, mais vous l'avez écrit, donc vous existez.
Lolita, est-ce que tu veux bien nous lire quelque chose de toi ?
C'est un extrait qui parle justement de quelqu'un d'autre, puisque moi je crois que j'aimerais bien parler de cette dame.
Ah, moi j'ai beaucoup aimé Nicole. Hein.
Nicole, ah, oui. Ok. Ouais. Alors on va parler de Nicole, c'est un extrait du journal de Grèce. Donc Nicole, c'est une dame que j'ai rencontrée, comme je le racontais, complètement par hasard à la gare de Lyon et qui m'a confié son histoire. Le journal est grand, donc je l'approche pour le lire. Nicole, gare de Lyon, 6 août 2015. Les beaux Grecs. J'espère que vous allez rencontrer votre mari. En entier, parce que les statues grecques, elles... Il faut déboulonner la statue, ce n'est pas facile. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on le met souvent sur un piédestal. Mon premier amour m'a quittée. Il ne voulait pas d'une boiteuse. J'ai rencontré mon mari dans un taxi. Il conduisait. C'est lui qui est tombé sous mon charme. Il courtisait maman. Je me suis souvent demandé, étais-je sa femme ou la bru ? Il avait les cheveux longs, je n'aime pas tellement ça. Et une bonne éducation, ça j'aime beaucoup. Elle me raconte l'histoire de Rachid Antoine, l'enfant berbère qui est subitement devenu son cousin pendant la guerre. Il a gardé le nom d'Antoine, je l'ai revu quelquefois, comme d'autres cousines que nous avons eues pendant la guerre. L'homme est le brouillon de la femme, elle est plus résistante, heureusement qu'on ne les dévore pas. Vous vous en souviendrez, hein ? J'ai fait des études pour être chercheuse en électricité. Je voulais faire physique-chimie, mais on m'a demandé de démissionner du classement pour laisser la place aux hommes. Alors, je me suis dirigée où il y avait de la place, en électricité. Dans mon agence, il y avait 4 femmes, secrétaires comprises. J'ai eu 3 sœurs, pas de frères, et mon père est décédé jeune. Ce sont mes collègues ingénieurs qui m'ont protégée. Ils s'inquiétaient gentiment pour moi. Je les ai tous beaucoup aimés. Ma sœur a été empoisonnée par les Allemands pendant la guerre. Elle en a gardé une peau de tortue. Elle a dû rester toute sa vie avec maman. Elle ne pouvait plus se marier. Je n'ai pas eu d'enfant, à cause de la maladie cardiaque de mon mari, qu'il ne voulait pas transmettre. Nous avons essayé d'adopter. Au Cambodge, il y avait des enfants mutilés. Et au Chili, il y avait des enfants orphelins. Mais il fallait rester 2 mois sur place. C'était trop long pour nous. Nous sommes restés sans enfants. Les hommes, ils ont la force physique. Les femmes compensent par les nerfs. Vous vous en souviendrez, hein ? Un jour que j'étais à Cannes, j'ai dû descendre sur la chaussée pour éviter les travaux. Soudain, je me suis sentie soulevée comme une plume et reposée sur le trottoir. C'était un homme déguisé en femme. À Milan, allez voir le cimetière. Et la page suivante du journal, effectivement, c'est une photo du cimetière de Milan. C'est la première chose que je suis allée voir à Milan. Et alors, ce qui est très beau avec cette dame, c'est que quand je suis revenue du voyage de Grèce, bien plus tard, j'ai reçu une lettre de sa part. On s'était échangé nos souvenirs de vie, mais aussi nos adresses. Et donc, elle m'a envoyé une lettre que j'ai mise à la fin du journal et qui a été un très, très beau cadeau pour conclure, entre guillemets, ce journal.
qui te demande de tes nouvelles.
Voilà, qui me demande de mes nouvelles et puis qui me demande si j'ai trouvé mon amoureux, enfin si j'ai trouvé mon mari. C'est fou, vraiment tout le monde pose cette question. Elle me raconte elle aussi ce qui s'est passé pendant ses vacances puisqu'elle partait en vacances chez sa sœur. Et puis elle me fait quelques remarques sur justement la façon dont ça s'est dégradé dans la région parisienne, ce sentiment. Donc il y a des phrases un peu étranges. Je n'étais pas raciste, mais je crois que je le deviens, même si j'ai épousé un fils de Polonais. Et là, elle me met entre parenthèses le charme slave. Elle avait toujours une façon assez complice en fait de me parler alors qu'on se connaissait pas beaucoup. Il y a une sorte, j'en parle un petit peu aussi dans le journal, il y a une sorte de complicité. Je crois que mon sac à dos lui a donné envie de me raconter des choses. Et puis du coup, elle me pose des questions. Avez-vous rencontré votre Roméo? Les Grecs sont réputés pour leur gentillesse, etc. Elle prend des nouvelles.
Ça aussi, c'est une belle rencontre. Tu as pris des notes tout de suite après cette rencontre, tu arrives à retenir
Je me souviens vraiment très très bien dans ce cas-là.
Ah oui.
J'ai une très mauvaise mémoire, mais là je me souviens très très bien où j'ai écrit. Ouais. C'est-à-dire que donc il y a une photo d'elle dans le journal. On est à la gare de Lyon, donc elle est assise devant moi au café. Et elle m'a offert un café. Et puis ensuite donc je vais prendre mon train pour Milan. Et dans le train pour Milan, à peine assise, je crois que je m'étais même pas dit que j'allais écrire pendant ce voyage. Je partais en Grèce comme on va parfois à la rencontre d'un. On ne sait absolument pas quoi. J'ai fui complètement. Je voulais aller en Grèce. Donc j'ai décidé de partir sur un coup de tête. 3 jours avant, je ne savais pas. Et donc j'avais mes carnets, mais vraiment, j'avais aucune idée de ce que j'allais en faire. Et en fait, je m'assois 5 minutes dans le train. Et là, je me dis, ce qui vient de se passer, c'est à la hauteur de ce que je vis, de ce que je veux vivre. Il faut absolument que je note ce qui vient de se passer. Et donc, j'ai noté dès 2 heures. J'ai noté de ce qu'elle m'avait dit. Alors, il y a certaines phrases que j'ai réutilisées directement. La phrase, vous vous en souviendrez. Hein. Ça, je l'avais déjà écrit parce que c'est une impression qu'elle m'avait vraiment donnée de me donner des sortes de conseils pour la vie, une sorte de ferveur à me dire, vous vous souviendrez bien de ça. C'est important. J'ai vraiment envie de vous le dire. J'ai vraiment envie que vous en souveniez. Et ça, je l'avais noté, par exemple. Donc, les femmes ont la force physique, les hommes, ils ont la force physique, les femmes compensent par les nerfs. Ça, c'est quelque chose que j'ai directement écrit de mon souvenir, de ce qu'elle m'avait dit. Mmh. Alors, certainement que je l'ai un peu réinterprété. Enfin, je veux dire, dans l'écriture, c'est réinterprété. Mais... Mmh. Et ensuite, j'y ai plus touché. C'est quelque chose que j'ai couché sur le papier ensuite.
Enfin, c'est pas tant que ce soit réinterprété. C'est surtout que... C'est agencé.
Oui.
C'est raconté.
C'est raconté. C'est exactement ce que Anne disait. Hein, voilà, c'est le récit de. À un moment donné, on découvre des choses, que ce soit les choses du passé, comme des personnes comme ça qui nous racontent une vie qu'on imagine. Et puis en fait, on la met en histoire, on la met en récit, et c'est ça qui rend les choses écrites.
Écoutez, mesdames, j'aurais bien continué, mais là, on va dépasser le temps. Même si on l'a déjà dépassé, parce qu'il y a les copains chroniqueurs, après, derrière, ils vont me taper sur les doigts.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, vraiment. C'était un grand, grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, vous revenez quand vous voulez. Hein, parce que là, vraiment, il y a encore 2 émissions avant la fin de l'année. Hein, donc, vraiment, vous êtes les bienvenus. Donc, l'émission continue du Vent dans les Pages sur Studio Zef avec à l'abordage. La chronique d'Alice et Mométis, la poésie voyageuse. À tout de suite.
Ça, c'est l'histoire de
Melody Nelson.
Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne? Mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour. Pauvre
Melody Nelson.
Mais elle en avait des tonnes. Mais ses jours étaient comptés. 14 automnes et 15 étés. Aimable petite conne,
tu étais à condition sine qua non de ma raison.
Du vent dans les pages. Sur Studio Zef.
À la boudage !
Des essais contre les idées reçues.
En ce mois d'avril 2017, j'ai trouvé un petit ouvrage fort intéressant. Ça s'appelle « Lettre aux Français qui croient que 5 ans d'extrême droite remettraient la France debout ». C'est de Nicolas Lebourg et c'est publié aux éditions Les Échappées. Allez savoir pourquoi, je me suis dit que ce pourrait être de circonstance. Alors Nicolas Lebourg, c'est un historien-chercheur associé au Centre d'études politiques de l'Europe latine à l'Université de Montpellier et membre de l'Observatoire des radicalités politiques. Aujourd'hui, c'est un commentateur incontournable du FN, donc un spécialiste qui s'est donné comme ligne de conduite de rester le plus neutre possible face à son sujet, le Front National. Et oui, plutôt que de vociférer contre le FN et son électorat, Nicolas Lebourg explique les mécanismes du parti sans jamais tomber dans la facilité, à tel point que certains journalistes lui ont reproché d'être atteint du syndrome de Stockholm face à son sujet. Bah ouais, le gars serait tellement fasciné qu'il en oublierait d'être critique. Alors oui. Dans l'introduction à Lettre aux Français qui croient que 5 ans d'extrême droite remettraient la France debout, il écrit, je cite, « Pour la première fois, mesdames, messieurs, vous allez voter Front National. Qu'ai-je à vous répondre ? Certainement pas que vous êtes un amas de fascistes, de racistes, de réactionnaires et tutti quanti. France moisie contre dictature socialope, voilà le niveau du débat où notre espace public se noie. Moins on a d'idées, plus on éructe. » Fin de citation. S'en suivent 10 lettres adressées à des électeurs du Front National, imaginaires, mais chacun placé dans un contexte spécifique. Il y a le professeur d'Albi, la caissière de Perpignan, l'ouvrier agricole de Senlis, le gendarme catholique de Nantes ou le médecin d'Aix-en-Provence. Et à chaque fois, au prétexte de s'adresser à cette personnalité type, mais pas caricaturale pour autant, l'historien explique comment le Front National a fait son trou dans toutes les strates de la société. Comment 9,4% des enseignants du secondaire ont voté FN en 2015, alors qu'ils n'étaient que 3,8% 3 ans plus tôt. Comment le FN s'est engouffré dans la brèche des fonctionnaires exaspérés par les attaques continuelles des différents gouvernements contre l'État-providence. Dans sa lettre à une seigneur de Janville, il explique comment depuis 1990, de Chirac à Sarkozy, tous les caciques de droite ont surfé sur les thèmes de l'immigration chers aux frontistes. On apprend ainsi que le FN est le champion du recyclage sur ses listes de militants de droite qui n'ont pas obtenu l'investiture du Parti Les Républicains. Dans sa lettre à l'ouvrier agricole de Senlis, il démontre que petit à petit, les habitants des zones rurales se sont sentis abandonnés par les pouvoirs publics, voyant disparaître les services publics et les commerces les uns après les autres. Et tiens, curieusement, en 2012, Marine Le Pen se proclamait, je cite, « le tribun de la France des oubliés ». Nicolas Lebourg écrit, je cite, « au régional, la messe fut dite ». Partout en France, le FN a écrasé ses concurrents dans les villages. Les hommes politiques et les journalistes n'auraient dû parler que d'aménagement du territoire. Il n'en fut rien. Fin de citation. À la caissière de Perpignan, il raconte comment le FN a gagné le vote des femmes. Au gendarme catholique de Nantes, il explique que dans un sondage réalisé en 2015, 52% des sondés estimaient qu'il fallait rétablir la peine de mort. 69% que la société évolue vers trop d'assistanat et que 40% accepteraient un pouvoir politique autoritaire quitte à alléger les mécanismes de contrôle démocratique s'exerçant sur le gouvernement. Dans sa lettre au médecin d'Aix-en-Provence, il explique comment le FN a réussi à ratisser large en s'ouvrant autant aux ouvriers qu'aux professions intellectuelles supérieures. Aux élections professionnelles de 1998, le FN a ainsi créé des listes intitulées « Confédération française nationale des travailleurs » pour les salariés, celle-ci s'appuyait sur le social, et puis à côté, il y avait des listes « Entreprises modernes et libérales », côté employeur, très libéral. Bref, en 10 lettres, Nicolas Lebourg dresse le portrait d'une société peu à peu gangrénée par les thèses frontistes. Ce faisant, il ne justifie pas ses thèses, non, non. Il souligne l'intelligence d'un parti qui a su s'immiscer dans toutes les brèches ouvertes par les autres partis. La dernière lettre, adressée à un lepéniste dubitatif, conclut l'exposé en beauté. Nicolas Lebourg rappelle que derrière tous les beaux discours du Front se cachent toujours les thèses historiques du rejet de l'immigration. Tiens, d'ailleurs, saviez-vous que le programme du FN intègre l'interdiction des manifestations de soutien aux sans-papiers ? Mais surtout, comment la gauche a complètement failli en oubliant son champ d'action sociale et en creusant le sillon du Front National pendant ces 5 dernières années ? Là où les observateurs estiment que voter FN est un vote de protestation, explique Nicolas Lebourg, eh bien en fait, il s'agit plutôt d'un vote de conscience, où l'électorat choisit un programme et non pas seulement un homme ou une femme. Enfin, l'auteur démontre que même si le FN ne gagne jamais les élections, la victoire est latente, car, je cite, « le score du parti influe sur le réel. Les législations relatives à l'immigration ou à la sécurité changent convulsivement après les scrutins nationaux où un FN, même finalement défait, a marqué sa présence. » Fin de citation. En d'autres termes, voter FN revient à exercer un lobbying législatif. Bref, un petit livre très bien fait qui, au lieu d'éructer contre les électeurs frontistes, analyse avec intelligence une situation politique qui est tout sauf une surprise.
Mots métis, la poésie voyageuse. Mueke est originaire du centre de la Colombie, deuxième de tous les pays de langue espagnole après le Mexique, où environ 65 langues indigènes et 2 créoles sont encore parlées. Ses voisins sont le Venezuela, le Brésil, l'Équateur et le Pérou. Elle est bordée à l'ouest par l'océan Pacifique et le Panama, au nord par la mer des Caraïbes. Mueke est marionnettiste en Colombie dans la compagnie Titeres del Destino, marionnette du destin, et travaille actuellement sur le projet du spectacle Wanted 2017 à Blois. Écoutons-le nous narrer l'histoire d'une petite grenouille du poète et fabuliste Rafael Pombo.
De Rafael Pombo, Rin Rin Renacuajo. El hijo de rana Rin Rin Renacuajo salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salgas, le grita mamá, pero él hace un gesto y orondo se va. Halló en el camino a un ratón vecino y le dijo, amigo, venga usted conmigo, visitemos juntos a doña ratona y habrá francachela y habrá cominona. A poco llegaron, avanza ratón, estirase el cuello, coge el aldabón, da 2 o 3 golpes, preguntan, ¿quién es? Yo, doña ratona, beso a usted los pies. ¿Está usted en casa? Sí, señor, estoy, y celebro mucho ver a ustedes hoy. Estaba en mi oficio, hilando algodón, pero eso no importa, bienvenidos son. se hicieron la venia, se dieron la mano, y dice Ratico, que es más veterano, mi amigo el deber de rabia de calor, démele cerveza, hágame el favor. Y en tanto que el pillo consume la jarra, mandó la señora a traer la guitarra, y a Renacuajo le pide que cante versitos alegres tonada le cante. ¡Ay de mil amores lo hiciera, señora! Pero es imposible darle gusto ahora, que tengo el gaznate más seco que estopa y me aprieta mucho esta nueva ropa. Lo siento infinito, responde tía Rata. Aflójese un poco chaleco y corbata y yo mientras tanto les voy a cantar una cancioncita muy particular. Mas estando en esta brillante función de baile, cerveza, guitarra y canción, la gata y sus gatos salvan el umbral y vuélvese aquello el juicio final. Doña Gata Vieja trinchó por la oreja al niño Ratico maullándole ¡hola! Y los niños gatos a la vieja rata, una por la pata y otra por la cola. Don Renacuajito, mirando este asalto, tomó su sombrero, dio un tremendo salto. Abriendo la puerta con mano y narices, se fue dando a todos noches muy felices y siguió saltando tan alto y a prisa que perdió el sombrero y rasgó la camisa. Se coló en la boca de un pato tragón y este se lo embucha de un solo estirón. Así concluyeron 1, 2 y 3, ratón y ratona y el rana después. Los gatos comieron. Y el pato cenó y mamá ranita solita quedó.
Un grand merci aux amis Alice et Alex, à Lolita, Anne et Mweke. En attendant le mois prochain, vous pouvez télécharger Du vent dans les pages ainsi que toutes nos émissions sur studiosf.fr. Et si vous êtes complètement accro, branchez-vous sur 91. À bientôt à la radio.
Regada en sangre de bravosa y Mweke. Grito. Está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Vuelve crecida de un sueño verde.